This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Qu'est-ce que j'ai dit à Elon Musk ?
Vous voulez venir en Europe ? On va avoir des règles et les voilà.
Il faut que nous ayons un cloud souverain.
La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise.
Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution ? Moi, ce que je dis, c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré.
Signaux faibles, le podcast de Siècle Digital qui décode l'actualité du numérique. Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 22 février 2024, bienvenue dans Signaux faibles. Passons tout de suite au programme. Ça y est, la Commission européenne a dévoilé ses mesures très attendues pour le marché des télécoms. Nous parlerons aussi des résultats de Nvidia, le chiffre d'affaires du géant des puces est en hausse de 265%. Nous verrons également que les entreprises taïwanaises des puces se précipitent au Japon au détriment de la Chine. Et dernière actualité avec Google qui se lance dans l'intelligence artificielle ouverte, nous verrons ce que ça signifie. Voilà pour les actualités du jour, en espérant que ça vous plaira, je vous souhaite une bonne écoute. La Commission européenne a publié un livre blanc très attendu le 21 février. À l'intérieur, elle dévoile plusieurs mesures et initiatives pour, je cite, « favoriser l'innovation, la sécurité et la résilience des infrastructures numériques ». Ce livre blanc était attendu car il donne en quelque sorte le cap que la Commission veut fixer pour l'évolution du marché des télécoms. Et il en ressort qu'il s'agit d'un premier pas vers un assouplissement du cadre législatif pour limiter les concentrations entre les acteurs des télécoms. Ce n'est pas nouveau, la Commission européenne veut accélérer le passage à la fibre optique, et donc la fin des réseaux cuivre, et unifier les réseaux européens autour du haut débit. Nous en parlons régulièrement dans cette émission. Et nous en avons aussi parlé dans Signaux faibles, la Commission encourage également le déploiement de câbles sous-marins et leur mise à jour pour en augmenter la sécurité. Il s'agit en effet d'infrastructures critiques, stratégiques, permettant l'usage d'Internet. Mais tous ces projets de câbles et de réseaux, ça coûte des milliards et des milliards d'euros. Pour qu'ils puissent être menés à bien, l'Union européenne vise un financement de 200 milliards d'euros. Mais comment obtenir une telle somme ? Eh bien, selon Bruxelles, en faisant appel au soutien du secteur privé. Problème, ces acteurs privés ont eux aussi des contraintes budgétaires et des difficultés à trouver autant de fonds. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a expliqué, je le cite, « On a le plus large marché numérique intérieur du monde libre, une fois et demie plus gros que le marché américain. Il faut qu'on puisse en bénéficier pour déployer ces très larges infrastructures. » Comme le montre le livre blanc, cela passera par un changement du cadre réglementaire en vigueur. Pourquoi, me demanderez-vous ? Allez, comme je suis sympa, je vous explique. Aujourd'hui, le marché européen des télécoms est divisé au niveau national. Plusieurs opérateurs se partagent le réseau dans un pays. Jusque-là, rien de nouveau. Pour l'Union européenne, cette fragmentation est trop importante, ce qui amènerait à une faible rentabilité des opérateurs. Et ça empêcherait le secteur privé d'investir suffisamment dans la modernisation des réseaux. Voilà donc pourquoi ces acteurs privés ont du mal à trouver des fonds nécessaires selon Bruxelles. Pour leur donner plus de moyens, la Commission a récemment revu sa position sur les fusions. Et oui, rien n'interdit aux opérateurs de deux pays différents de fusionner. L'Union européenne aimerait donc créer un marché unique en favorisant des concentrations de ce type. C'est maintenant officiel, l'UE veut favoriser les fusions transfrontalières. Une mesure très attendue par l'industrie, qui le réclamait depuis longtemps. Il faut dire que pour les télécoms, réduire la concurrence, c'est aussi augmenter leur rentabilité et donc avoir plus d'argent pour investir dans les réseaux. Notons cependant une chose, les propositions du livre blanc devront être discutées avec les législateurs et les représentants du secteur. Une consultation publique est ouverte jusqu'au 30 juin 2024. Nvidia se porte bien, très bien même. Ses actions ont bondi de 13% hier soir après l'annonce de ses revenus trimestriels. Sa capitalisation est maintenant de près de 1700 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires, lui, a augmenté de 265% sur un an. Ses résultats trimestriels sont au-dessus des attentes des analystes. Pour vous donner une idée du poids de Nvidia, le CAC 40, Wall Street, le Nikkei ont tous été impactés par ses résultats. Les revenus de Nvidia ont atteint les 22,1 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, quand les analystes s'attendaient plutôt à 20,4 milliards. Et pour le trimestre actuel, la société s'attend encore à mieux, avec 24 milliards. Pourquoi un tel succès ? L'explication est toujours la même depuis des mois. Le boom de l'intelligence artificielle depuis novembre 2022. L'IA a besoin de puces, de GPU pour être plus précis, pour être développée et alimentée. Les meilleures puces pour IA sont celles de Nvidia. Résultat, elles s'arrachent à prix d'or, à tel point qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Le géant américain détient ainsi plus de 3/4 de ce marché. Son fondateur et PDG, Jensen Huang, a expliqué que la demande augmente partout dans le monde. Ces résultats, ce sont l'apogée de la montée en puissance d'une société fondée en 1993 et à l'origine spécialisée dans les cartes graphiques pour les jeux. En 2024, on peut le dire, les puces de Nvidia, notamment la H100, sont les plus courues de la Silicon Valley. La preuve, les grandes entreprises technologiques représentent près de 40% de ses revenus, mais ses clients se sont tout de même diversifiés parce que de plus en plus d'industries se précipitent pour investir dans l'IA. Jensen Huang a notamment affirmé que des secteurs comme l'automobile, la finance et la santé dépensaient désormais pour ces puces plusieurs milliards de dollars. Il a ajouté que des pays comme le Japon, le Canada et la France devenaient de plus en plus clients de Nvidia. Le marché sera maintenant de plus en plus attentif pour voir si Nvidia maintiendra sa croissance ou non. Les concurrents se multiplient et ce géant risque bien de perdre des parts de marché dans les prochaines années. Le Japon vole la vedette à la Chine. Le pays du soleil levant s'efforce depuis des mois de reconstruire son industrie de semi-conducteurs, notamment à coup de subventions. Ça s'inscrit dans la course mondiale aux puces à laquelle de nombreux pays ont pris part. Ces coups de main financiers poussent de plus en plus d'entreprises taïwanaises du secteur à se lancer au Japon. Cet afflux vers le pays témoigne aussi d'un changement géopolitique et géostratégique dans l'industrie. Avant, la Chine était une terre promise. Mais depuis 2022, les États-Unis multiplient les sanctions pour ralentir les progrès chinois en la matière et empêcher l'approvisionnement en puces avancées. Dans le même temps, ces derniers renforcent leur partenariat avec leurs alliés, surtout avec ceux qui suivent leurs sanctions, comme le Japon. On assiste donc à un mouvement de plusieurs entreprises qui délocalisent une partie de leurs activités de la Chine vers le Japon. 9 entreprises taïwanaises de puces électroniques se sont installées ou ont étendu leurs activités au Japon au cours des 2 dernières années selon Reuters. Ce pays fait partie des principaux fabricants de matériaux et d'équipements pour semi-conducteurs, mais sa part de marché dans la fabrication est de seulement 10% contre environ 50% dans les années 80. Voilà pourquoi le Japon a énormément investi ces dernières années pour attirer des sociétés étrangères et remonter la pente. C'est aussi une question de sécurité économique et de souveraineté technologique, évidemment. Le numéro 1 mondial des puces, le taïwanais TSMC, devrait même inaugurer sa nouvelle usine japonaise samedi. TSMC, Rapidus, Alchip Technologies, Global Unichip Corp, les entreprises taïwanaises débarquent en masse au Japon. Une bonne nouvelle pour ce pays, une moins bonne pour la Chine. Google ne lâche rien dans la course à l'intelligence artificielle. Le géant américain a annoncé le lancement de 2 nouveaux modèles d'IA ouverts. Un contre-pied à ce que font OpenAI et Microsoft, ses plus grands rivaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, modèle ouvert ? On parle ici d'infrastructure ouverte. Google a insisté sur un point, c'est différent de l'open source. Là, les développeurs peuvent y accéder à ce modèle et l'utiliser pour effectuer des inférences et le paramétrer. En revanche, ils ne peuvent pas mettre la main sur son code. Ça pourrait un petit peu faire penser à ce que fait Meta avec LLama 2. Donc, Google a créé Gemma 2B et Gemma 7B, dont l'infrastructure est ouverte. Pour les créer, le géant américain s'est basé sur la même technologie que celle de Gemini, son modèle de langage ou LLM le plus puissant. Tris Varkentine, directeur de la gestion des produits chez Google DeepMind, a évoqué une nouvelle opportunité pour travailler avec la communauté et créer de nouvelles opportunités dans l'IA. Cerise sur le gâteau, ces 2 nouveaux LLM seraient assez légers pour fonctionner sur un ordinateur portable selon la société. Ils peuvent être utilisés pour aider les entreprises et les développeurs à créer des chatbots en ligne, par exemple. Bien sûr, Google affirme qu'ils sont plus puissants que les modèles ouverts déjà existants. Enfin, je vous le disais juste avant, Google prend ici une direction totalement différente d'OpenAI et Microsoft qui, eux, créent des modèles fermés. OpenAI affirme même que l'ouverture des modèles est un danger. De l'autre côté, les défenseurs de l'open source rétorquent que l'ouverture est au contraire plus sûre. Ça permettrait aux personnes extérieures à l'entreprise d'identifier les problèmes liés à l'IA et de proposer des solutions et donc de corriger les failles plus vite. Google, de son côté, explique avoir utilisé des techniques automatisées pour supprimer les informations personnelles des données exploitées pour former les modèles. L'entreprise aurait aussi utilisé l'apprentissage par renforcement basé sur le retour d'informations humaines. Le but ici, s'assurer de la sûreté des modèles Gemma et de leur comportement responsable. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous laisser notes et commentaires. Et puis, tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. À demain.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.